France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité.
Margot Delpierre.
Bonjour à tous. Les partenaires sociaux ont bien noté la date dans leurs agendas. Elle a été communiquée hier soir par Matignon. Ils seront reçus le 7 janvier par plusieurs membres du gouvernement pour évoquer la réforme des retraites. Ils discuteront des questions de pénibilité et de gestion de fin de carrière. Seront présents les ministres du Travail et de la Santé, les secrétaires d'État chargés des retraites et de l'action et des comptes publics. La concertation se poursuivra tout au long du mois de janvier. En cette veille de Noël, le trafic est toujours perturbé sur les rails avec en moyenne 2 TGV sur 5, 1 Transilien sur 5 en circulation et 4 TER sur 10. Les Transiliens d'ailleurs s'arrêteront progressivement de circuler à partir de 18h jusqu'à demain après-midi. Côté RATP, 6 lignes de métro sur 16 sont toujours complètement fermées. Pour maintenir la flamme, la CGT Cheminot a prévu des actions toute la semaine. Hier, des manifestants ont brièvement bloqué la circulation sur la ligne 1 du métro parisien et occupé des voies gardées de Lyon. Un mois après l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn en Haute-Garonne, le procureur de la République de Toulouse a ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire et blessures involontaires hier. 2 personnes sont mortes, une autre blessée dans cet effondrement. Selon les premiers éléments de l'enquête, un camion de plus de 50 tonnes est la cause immédiate de l'accident. C'est plus que ce que le pont pouvait supporter. L'offensive du régime syrien dans la province d'Idlib s'intensifie depuis une semaine. Hier, l'armée de Bachar el-Assad a encerclé un poste d'observation turc après avoir repris du terrain aux djihadistes et rebelles de cette région. Dimanche, 9 civils sont morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. 24 heures après la visite d'Emmanuel Macron dans le pays, la justice ivoirienne a émis hier soir un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro, 47 ans, ex-chef de la rébellion et candidat à la présidentielle de 2020. Il devait rentrer en Côte d'Ivoire. Son avion a finalement atterri au Ghana. Il est accusé de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national.
4 enfants, un mari, un lapin, un boulot, travailleuse et mère de famille au bord de la crise de nerfs, la vie trépidante de Brigitte Tornade, en podcast original. Noël approche et c'est l'effervescence chez les Tornades.
Quand même, c'est du chantage ça.
Comment ça du chantage?
Bah, de dire que tu vas téléphoner au Père Noël si Octave mange pas, c'est du chantage.
Guirlandes, sapins et dindes au marron, en tristérie festive, découvert à la banque, prise de bec et angoisse existentielle, tout y est. La vie trépidante de Brigitte Tornade, en podcast original sur franceculture.fr et toutes les plateformes dédiées.
Le concours de recrutement pour la maîtrise de Radio France est ouvert. Vous avez entre 9 et 15 ans? Vous aimez chanter? Rejoignez la maîtrise de Radio France. Inscrivez-vous avant le 31 janvier 2020 en téléchargeant le dossier sur maisondelaradio.fr, rubrique recrutement des formations musicales.
Tout de suite sur France Culture, le réveil culturel par Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel. Cette semaine, nous célébrons les esprits rebelles sur France Culture et au programme de ce réveil culturel, plein feu sur une exposition de design qui mérite le détour à Bordeaux, surtout si vous n'habitez pas cette ville. Une expo rétrospective qui a lieu en ce moment dans un joli petit musée qui fut autrefois une prison. Et donc jusqu'au 5 janvier, on peut voir des meubles art déco pré-pop art dans un déluge de couleurs et de lumières. C'est le meilleur des audaces esthétiques des années 80. L'esprit rebelle qui veut que des meubles ne servent pas seulement de meubles, des meubles qui brillent et qui s'y distinguent avant tout, tout sauf classique, tout sauf bourgeois, ça peut être ça la philosophie de la Memphis. C'était les années 80. Le musée des arts décoratifs et du design, le MAD Bordeaux, y accueille donc l'exposition Memphis Plastic Field. Memphis est le nom de ce mouvement fondé par le designer et architecte italien Ettore Sottsass en 1981, qui par sa radicalité a marqué, au-delà d'ailleurs des meubles révolutionnaires confectionnés, toute l'esthétique des années 80. Constance Rubini, la directrice du musée et la co-commissaire de l'exposition, est mon invitée ce matin.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Bonjour Constance Rubini.
Bonjour Toufi.
Un fauteuil en plastique vert scintillant en forme d'auto-tamponneuse, oui. Une immense bibliothèque en forme de totem multicolore, un buffet qui ressemble à un martien, des luminaires
et des vases
qui sont vraiment art déco flashy, s'abritent de toutes les couleurs, de plein de lumières. C'était ça le... La Memphis, c'était exciter les désirs avant de répondre aux besoins.
Vous pouvez pas mieux dire. C'était vraiment ça.
La beauté de l'objet avant sa fonction.
En tout cas, avec la fonction. C'est-à-dire que jusqu'avant Memphis, le design ne se préoccupait que des besoins. Il ne visait qu'à répondre aux besoins et à l'usage. Et puis tout d'un coup, avec Memphis, avec Ettore Sottsass, il va répondre aux désirs. Le design tout d'un coup est là pour répondre aux désirs ou en tout cas créer du désir. Et donc plutôt que de uniquement se concentrer sur la forme et la fonction et la rationalité des objets, eh ben c'est une explosion de couleurs, c'est une communication visuelle, la communication visuelle avant tout, l'émotion, le rapport à l'homme, le rapport à l'autre.
Alors qu'appelez-vous par la communication visuelle? Parce qu'effectivement dans les années 80, on ne parlait que de ça, de la com.
C'était quand même une belle intuition parce qu'aujourd'hui, la communication visuelle et les images ont envahi quand même vraiment notre quotidien. Pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Ce sont des objets en fait qui fabriquent des images. C'est-à-dire qu'elles sont tellement colorées, tellement ornées, il y a tellement de motifs que ça fabrique des images très gaies, très presque parfois enfantines, narratives en tout cas. C'est des objets qui racontent des histoires.
Alors, puisqu'on célèbre cette semaine les esprits rebelles, est-ce qu'on peut dire que avec Memphis, c'est le design révolutionné par un collectif d'esprits rebelles?
C'est vraiment ça. Je pense que voilà, en Italie, il y avait depuis dans les années 70 des tas de designers qui travaillaient entre eux, qui participaient à des mouvements radicaux où cette chose-là était en train de naître. Mais avec Memphis, tout d'un coup, ça prend une dimension d'abord internationale et puis grâce à la série, en fait, parce que tout de suite, ils s'associent avec des industriels pour fabriquer en série. Et donc, il y a une diffusion mondiale. Et donc, ça prend une ampleur. L'esprit rebelle, tout d'un coup, s'internationalise. Alors, italien, parce que tout ça se passe à Milan, au départ.
Mais s'il fallait définir cet esprit rebelle, est-ce que je pourrais dire, Constance Rubini, que c'est l'impertinence artistique contre le classicisme bourgeois?
Oui, je crois que vraiment, pour Sottsass et pour tous ceux qui l'entouraient, il y avait une chose qui comptait, c'était de mettre à mal tous les codes bourgeois. Cette bourgeoisie très ennuyeuse et les codes du design aussi qui se parlaient un peu entre eux. Et tout ce qui l'intéressait, lui, c'était de regarder dans la rue, de se recommuniquer à une culture populaire, l'ornement, la couleur. Fini, en fait, cette histoire de le design, d'un certain design élitiste qui, du coup, était dans la sobriété. Mais tout ça avait une raison d'être. C'est-à-dire que ce design très sobre qu'on avait l'habitude de voir était aussi parce qu'il visait une certaine rationalité. Et donc, il fallait atteindre le standard pour être plus facilement adaptable à l'outil industriel. Ça, c'est ce que la modernité avait mis en place. C'est-à-dire que la forme devait suivre la fonction. Tout de suite, on devait savoir qu'un objet, à quoi servait l'objet, on devait le comprendre immédiatement. Et il devait être suffisamment simple dans ses formes pour pouvoir être fabriqué industriellement. Sottsass fait voler tous ces codes-là en éclats et tout d'un coup, il dit mais non, en fait. Ce qui est intéressant pour que les gens puissent fabriquer un lien personnel avec les objets, c'est que ces objets racontent une histoire, que ces objets véhiculent, d'abord recommencent à véhiculer des symboles, parce que de tout temps, les objets ou le mobilier étaient chargés de symboles. Le siège d'un empereur ou du chef d'une tribu n'avait rien à voir avec la petite simple chaise de la personne lambda. Ça a toujours existé, en fait. Donc, lui, il veut renouer avec tout ça, avec la charge symbolique des objets, émotive. En fait, la chose très intéressante qu'ils disent tous, donc lui et tous ces jeunes designers qu'il a fédérés autour de lui, c'est que jusqu'à présent, la fonction n'était définie que par rapport à l'usage. Mais qu'il faut redéfinir la fonction, se reposer la question de ce qu'est la fonction. Et avec beaucoup de poésie, il dit en fait, finalement, la fonction, c'est tout ce qui existe entre l'objet et la personne. Donc c'est la vie.
Dès la première collection, la Memphis va connaître un succès fulgurant.
Oui, absolument fulgurant. 2500 personnes qui font la queue devant la galerie, c'est très amusant parce que...
C'est à
Milan. Les gens à qui on parle aujourd'hui, des designers ou même ceux qui étaient à Milan à ce moment-là, on dit mais ça a vraiment fait l'effet d'une bombe.
Bah ouais.
Et alors on discutait avec Martine Bedin, qui est donc une des designers qui a fait la Memphis et qui était dans l'exposition et qui, voilà, le jour du vernissage, elle disait c'était c'était vraiment, c'était très drôle en fait, parce qu'on arrivait dans notre petite voiture, on était quatre, on arrivait pour se rendre à notre vernissage. On sortait quand même des années en Italie.
Des années de plomb, hein.
Des années de plomb, là, voilà, les bombes, enfin
les
attentats. Et on est arrivé, on a vu tout ce monde et on a cru qu'il y avait eu un attentat. Et on s'est dit, c'est pas possible, il y a eu un attentat. Et en fait, pas du tout. C'était la queue. Il y avait 2500 personnes qui faisaient la queue pour entrer dans cette petite exposition.
Mais il faut dire que tout le monde était alerté, hein. Les journalistes, Paris Match était sur place. D'ailleurs, Paris Match écrit en 1983, après Memphis, plus rien ne sera pareil dans l'histoire du design.
Exactement.
C'est une bonne définition.
C'est plutôt pas mal.
Bah oui, parce que ça marque une rupture, ce début des années 80. Mais quand je vous disais que tout le monde était au courant, c'est qu'il y avait aussi de la communication.
Énormément.
Oui.
Ouais. C'est-à-dire que ça a l'air comme ça quand on voit tous ces mobiliers. Et c'est une des rares fois en France, c'est pour ça aussi que l'expo est intéressante, c'est qu'on voit toutes ces pièces ensemble. Généralement, enfin, il y en a quelques-unes qu'on a vues, on en a vu d'autres dans des livres, sur des images. Mais là, on les voit toutes présentes autour de nous. Et quand on voit ça, on se dit, mais vraiment, quelle bande de... Ils sont bien amusés, quoi. Ils ont vraiment bien rigolé. C'est sûr qu'ils ont libéré tout ce qu'ils avaient envie de libérer. Mais à côté de ça, il y avait une vraie stratégie, un travail de fou, parce que l'exposition, à partir du moment où ils décident de la faire, ils se mettent à travailler comme des dingues tous. Alors d'abord, Sotsa se fédère autour de lui des designers très jeunes. Sotsa, ça avait à peu près 50 ans. Hein. Il avait déjà une carrière derrière lui de à la fois designer industriel et puis personne donc qui avait participé aux mouvements radicaux. Mais tous les jeunes, les gens qui fédèrent autour de lui ont une vingtaine d'années, pas plus. Et il y a des Italiens, mais pas que, évidemment. Et c'est là où ils visent l'internationalisme. C'est que il y a des Américains, il y a des Japonais, il y a des Espagnols, il y a des Français. Alors c'est pour ça aussi que c'est intéressant de montrer l'exposition à Bordeaux. C'est parce que dans le mouvement, il y avait deux femmes, seulement deux. Deux femmes, deux bordelaises. Les deux, et par hasard, parce qu'elles ne sont pas venues ensemble, mais elles se sont rencontrées, enfin elles se connaissaient, mais elles se sont retrouvées toutes les deux à faire partie de Memphis à Milan.
Alors, quand je disais tout à l'heure que...
La communication.
Oui, la communication.
J'ai peut-être pas assez répondu, je me suis emballée sur autre chose.
Mais oui, mais on a affaire à des gens, à des communicants.
C'est ça, c'est-à-dire que, voilà, des communicants d'abord, fortement, je pense que ça avait vraiment compris la force de la communication, et puis une stratégie. Donc voilà, il commence à réfléchir avec des graphistes, il y a des graphistes qui font partie du groupe, aux documents qu'ils vont produire, à la façon dont ils vont les communiquer, aux journalistes avec lesquels ils vont prendre contact, à comment ils vont diffuser le mobilier. Ils mettent en place une première collection, un catalogue, toutes les pièces sont photographiées, et tout ça en un temps éclair.
Je parlais d'un succès fulgurant dès la première exposition, le 18 septembre 1981 à Milan, mais on peut aussi dire que toute l'histoire de Memphis a été fulgurante, ne serait-ce que parce que ça a duré très peu de temps. En fait,
ouais, c'est fou.
7 ans, c'est ça, c'est de 81 à 88.
Exactement, c'est de 81 à 88, c'est-à-dire vraiment peu.
Ouais.
Et c'est fou de penser que 40 ans, on est quoi, 40 ans, 50, mm-hmm. 40 ans après, Memphis a cette espèce de présence énorme et très forte. Donc ça a duré très peu de temps, mais ça a été fulgurant. Et ça a, en revanche, ouvert un nombre de portes incroyables. Comme le disait Paris Match, les arts décoratifs et le design n'ont plus été les mêmes après. Mais ça va bien au-delà d'ailleurs, parce que je pense que Memphis a beaucoup influé dans des tas de domaines culturels, et notamment la mode. Il y a beaucoup de couturiers qui ont regardé Memphis, qui ont aimé Memphis. Le plus connu d'entre eux, c'est Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld avait meublé son appartement de Monaco entièrement en Memphis. Il avait presque toute la collection. Et voilà. Et
ça, c'est un coup de com' ou c'est,
non,
c'est un coup de cœur?
Je suis sûre que c'est un coup de cœur. Je pense que Lagerfeld était un vrai collectionneur. Il achetait beaucoup de choses et il a adoré Memphis. Et c'est pas étonnant parce qu'en fait, Memphis avait cette diversité, cette complexité qui l'intéressait. Je pense que Lagerfeld était quelqu'un d'excessivement curieux. Et il a forcément, en effet, il a aimé l'esprit de Sotsas, qui lui était plongé aussi dans plein de cultures différentes, mélangeait les choses, n'avait aucune barrière, était excessivement libre. Je pense que peut-être que Lagerfeld se retrouvait
quel
là-dedans.
Quel bon ambassadeur que Karl Lagerfeld. Et puis très peu de temps après, David Bowie.
David Bowie aussi, exactement. David Bowie a été un très grand collectionneur de Memphis. Mais vous connaissez tout déjà.
Ben on parle de design, on parle de cette collection, on parle des années 80, Constance Rubini. Et peut-être les gens se posent la question, mais pourquoi ce mouvement s'appelle Memphis ?
Memphis, en fait, c'est pour plusieurs raisons, parce qu'évidemment, avec Sotsas, tout était toujours complexe. Memphis, d'abord, c'est l'évocation du rock. C'est Memphis, Tennessee, c'est la chanson de Bob Dylan. J'ai plus les paroles du refrain en tant que, mais je crois que c'était « Stuck inside of Mobile with this song again ». Enfin bon, toujours la même chanson qui se répète. Voilà.
Pensez bien qu'on l'a préparée, la chanson. Ouais.
Et qui évoque, en fait, la fin d'un monde moderne. Mais c'est pas que ça. Donc c'est le rock qui, évidemment, à l'époque, est une culture, les jeunes qui écoutent du rock sont en rupture avec leurs parents. C'est la révolution, le rock. Mais c'est aussi Memphis, la capitale de l'Égypte ancienne. C'est là où, évidemment, Sotsa se puise dans plein de références différentes. C'est complètement emblématique, le nom qu'ils ont choisi ne pouvait pas mieux coller avec l'esprit que les objets véhiculaient.
All the rag men draw circles up and down the block. I'd ask him what the matter was, but I know that he don't talk. And the ladies treat me kindly, and they furnish me with tape. But deep inside my heart, I know I can't escape. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. Well, Shakespeare, he's in the alley with his pointed shoes and his bells, speaking to some French girl who says she knows me well. And I would send a message to find out if she's talked, but the post office has been stolen and the mailbox is locked. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again.
Bob Dylan sur France Culture, l'esprit rebelle, l'esprit de Memphis. Donc c'est des créateurs, des designers, des architectes qui écoutent cette chanson. On est bien d'accord puisqu'on est avec vous, Constance Rubini. Vous êtes la directrice du musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux qui propose donc jusqu'au 5 janvier cette exposition autour du mouvement Memphis. Ils écoutent cette chanson.
Ils sont tous ensemble, ils boivent un verre, ils écoutent cette chanson et puis tout d'un coup les choses se cristallisent.
Et Toré Sotsas, c'est un peu le vieux, il est entouré de jeunes créateurs.
Que de jeunes, voilà, une vingtaine d'années à peine.
Qui veulent bousculer vraiment tous les codes du design et même de l'architecture. Alors c'est qui Ettore Sotsas ?
Ettore Sotsas, c'est un personnage incroyable, avec une aura folle. C'est aussi pour ça qu'il arrive à fédérer tous ces jeunes autour de lui, mais c'était vraiment lui le moteur. C'est quelqu'un donc, qui avait une carrière de designer industriel, il avait notamment beaucoup travaillé avec Olivetti. C'est lui par exemple qui a designé cette fameuse machine à écrire portable rouge, alors qu'à l'époque les machines à écrire étaient des objets de bureau gris, beige, etc. Lui il la met dans une enveloppe rouge éclatante, et puis en plus elle est portable parce qu'elle est domestique, parce qu'elle nous accompagne, etc. Donc il avait tout ce travail industriel à côté, et puis c'est quelqu'un aussi qui participait aux différents mouvements radicaux, notamment très ami d'Andrea Branzi, de Michele De Lucchi, de toute cette bande des architectes italiens qui sont en train de se dire qu'il faut reconstruire sur le monde.
Et ce qui se passe outre-Atlantique, parce qu'au même moment, Andy Warhol installe sa factory.
Ouais.
Ce sont deux mouvements parallèles ou ce sont deux mouvements qui se parlent, qui se connaissent ?
Non, je pense que ce sont deux mouvements parallèles, mais qui connaissent, en tout cas, oui, forcément, je pense que Sotsas connaissait bien sûr le Warhol et le Pop Art, mais il y a une interview intéressante de Izozatsky qui est justement publiée dans le catalogue.
Le beau catalogue de l'exposition Memphis,
oui. Aux éditions Norma, qu'on a fait pour l'exposition, on est très contents de ce catalogue. Et il lui pose la question justement des liens avec le Pop Art, et Sotsas répond, mais en fait, le Pop Art extrayait des objets de la culture populaire et les agrandissait dans leur échelle et en faisait des œuvres d'art. Nous, on n'a jamais fait ça, c'est-à-dire qu'on n'a jamais pris un objet tel quel pour le changer, pour le glorifier. On a pris des tas d'éléments de plein de choses. En fait
si on les compare, c'était plutôt le côté flashy, les couleurs vives.
Oui. Ce qui intéressait ça, c'était l'hybridation. C'était d'associer plein d'éléments qui venaient d'univers culturel très différent, populaire mais aussi historique, de style du passé également, et sans se donner aucune barrière, aucune limite, donc librement, en faisant exactement ce qui lui plaisait.
Les rares critiques à l'époque disaient ou nous expliquaient que tous ces meubles-là sont peut-être beaux à voir, mais ils vont avoir une vie plutôt limitée. Non, puisque vous avez pu en récupérer suffisamment pour faire une exposition.
Exactement, l'histoire leur a donné vraiment tort, parce que c'est assez rare dans l'histoire du design d'avoir un mouvement qui dure comme ça, dans la portée dure aussi longtemps, aussi forte. Et surtout, ce qui est très intéressant et ce qu'il faut noter, c'est que ça a pris soin que ces objets-là soient fabriqués fabriquées industriellement, en tout cas en série. Et cette série ne s'est jamais arrêtée, cette fabrication ne s'est jamais arrêtée. C'est-à-dire que Monsieur Albrizzi, qui est aujourd'hui le directeur des éditions Memphis, travaillait déjà dans l'entreprise Memphis à l'origine et a pris la direction après. Et c'est toujours lui, c'est les mêmes personnes. C'est-à-dire que ils ont lancé l'industrialisation, la fabrication en série de ces pièces, et elle ne s'est jamais arrêtée depuis. C'est pratiquement unique dans l'histoire du design.
Alors, cette exposition autour de ce mouvement de designers Memphis raconte à sa manière, du moins que quand on visite l'expo, ça saute aux yeux, elle résume quand même les années 80.
Bah oui.
C'est-à-dire le début de la com, bien sûr, puisqu'on voit comment ils vont s'associer avec Lagerfeld, même si vous nous dites là ce matin, Constance Rubini, que Lagerfeld a eu un vrai coup de cœur pour le style Memphis.
Absolument, oui.
Mais il va le faire savoir, il va le montrer, il va se photographier avec
dans ses meubles.
C'est une exposition qui résume aussi tous les grands tournants de cette époque, c'est-à-dire le pire et le meilleur des années 80. Pour le pire, c'est quand même l'esprit fric, hein, l'esprit d'entreprise collective mais rentable, les années fric donc décomplexées qui commencent à s'installer, et en même temps c'est quand même toute une époque de création visionnaire, exaltante, allez, c'est en route vers le bonheur et la mondialisation heureuse.
Très très forte, c'est vraiment des années de créativité incroyable et qui bouscule. Je pense que les années 80 marquent un tournant très 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 marqué par rapport à ce qui s'est passé avant. Et dans tous les domaines. Parce que là, on parle de design, mais vous avez évoqué la mode aussi, la musique. On prépare actuellement là une exposition sur les sneakers qui va ouvrir au mois de mars. À partir des années 80, et peut-être que voilà, Memphis et l'esprit Memphis souffle aussi là-dessus, c'est que c'est plus du tout un problème de mettre une paire de baskets avec une jupe, ce qui était impensable avant. Donc tout est renouvelé, tout est... Les années 80, c'est la liberté, c'est la narration, c'est on se remet à raconter des histoires dans la peinture aussi. C'est vraiment la singularité, les personnalités des artistes qui s'expriment très fortement. Et dans le design, c'est d'autant plus marquant qu'il y avait le design était fait pour s'adapter justement à l'industrie. Et donc l'auteur disparaissait un peu derrière l'usage, derrière la fonction, derrière la machine industrielle. Et là, avec les années 80, c'est tous les créateurs qui reprennent en fait qui remontrent leur singularité. D'ailleurs, on parle de designer, mais on aime bien parler de créateur pour ces années-là, parce que la limite entre personnalité artistique et designer, ils sont des designers parce qu'ils produisent des meubles, ils pensent, ils font des objets et des meubles, mais ils sont très proches de la figure de l'artiste parce que c'est une créativité très très débridée.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
De quelques objets, de quelques créations au Memphis.
Alors, il y en a tellement. Il y a le ring, évidemment, parce que le ring, quand on rentre dans l'exposition, on voit tout de suite le ring d'Umeda, donc un des Japonais qui faisait partie du groupe, qui est cette pièce énorme qui, pour les designers de Memphis, pouvait servir à la fois d'endroit pour se retrouver, s'asseoir,
un comme canapé, un canapé.
Voilà, exactement, comme un canapé. Il y a cette photo, d'ailleurs, bien connue, où ils sont tous jetés et ils ont été photographiés dans le ring. Mais c'était aussi un endroit pour lire, où on pouvait se poser, lire, prendre une tasse de thé. Enfin, voilà, il était multifonction, un peu, cette espèce de...
Parce qu'à chaque fois,
une lampe qui vient éclairer le cœur en fait de cet espace fermé qui est un espace presque non défini, simplement clos, et donc dans lequel on peut faire ce qu'on veut et se poser de la manière dont on veut.
Cette bibliothèque, je la veux, elle
la
coûte
Carlton.
Cher.
La Carlton.
Ben oui,
non, elle
en forme de totem, avec plein de couleurs,
et
surtout déstructurée, tout
c'est
est là.
C'est ça, c'est toujours cette question de la fonction des codes fonctionnels, c'est-à-dire l'orthogonalité de toutes les bibliothèques jusqu'à présent, ben elle, là, c'est vraiment, elle est un peu déplacée. Mais on met des livres à l'intérieur. Simplement, elle n'est pas faite que pour mettre des livres, parce qu'elle évoque en effet le totem, elle raconte une histoire, elle est joyeuse, elle est presque enfantine. Donc, elle n'est pas que faite pour mettre des meubles, surtout des livres. C'est vrai qu'il y a certaines étagères qui sont plus faciles que d'autres, mais comme elle tend ses bras vers l'extérieur, quand les étagères sont un peu en oblique, c'est un peu moins facile. Mais voilà, elle raconte, elle a une présence. En fait, c'est des meubles qui ont une énorme présence.
Je rappelle qu'on a un compte Instagram et une page Facebook. Donc si vous voulez une page de l'émission en passant par franceculture.fr, si vous voulez avoir un aperçu des meubles Memphis, cette exposition, c'est une exposition que vous récupérez parce que cette rétrospective a eu lieu l'année dernière
à Venise,
en marge de la 16e édition de la Biennale d'architecture de Venise. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que vous avez changé pour la mettre dans cette petite prison devenue musée à Bordeaux?
Exactement. Qu'est-ce que ça change? Le lieu, en fait, avec le design, si vous voulez, c'est un petit peu différent d'une exposition de peinture. Une exposition de peinture, on l'amène d'un endroit à l'autre et puis c'est toujours sur des murs, on accroche les peintures sur des cimaises. Mais avec les objets sont en interaction vraiment avec l'espace. Donc c'est les mêmes scénographes mais elles ont recréé une scénographie quand même pour Bordeaux, puisque l'espace n'était pas le même. À Venise, c'était dans un palais magnifique, sur la lagune, c'était vraiment excessivement beau. Et puis là, c'était dans une prison. Mais c'est incroyable, parce que justement, les couleurs explosantes sont presque se démarquent sur les murs sobres de la prison de façon incroyable. Et l'histoire de la scénographie, en fait, ce que la scénographie raconte, c'est que dans les ruines de cette prison, parce que cette prison, elle a été en activité jusque dans les années 60, et puis après, elle a une histoire différente. Donc dans les ruines de cette prison, a poussé une jungle, donc c'est des plantes en plastique qui sont un petit peu près partout, mais qui sont colorées en noir pour que le vert ne soit pas en rivalité avec les beaux verts éclatants des objets. Et donc, au travers, on pousse comme ça les feuilles des plantes, et au travers de la jungle, on aperçoit les vestiges d'une civilisation très étrange, qui sont ces meubles qu'on arrive à rattacher à rien, parce qu'en fait, ils ne ressemblent à rien. Moi, une de mes pièces préférées dans l'exposition de Memphis, c'est cette table basse d'Ettore Sottsass, qui a un dessus en marbre. Donc le marbre, quel est le matériau le plus luxueux ou le plus honorable que le marbre? Mais elle repose sur des pieds en plastique vert et en plus pailleté, du plastique vert pailleté. Donc qui avait l'idée d'associer du marbre et du plastique pailleté? Il faut vraiment être Sottsass, il faut vraiment appartenir à Memphis pour pouvoir faire ça. Et ça marche.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
On va terminer par David Bowie, of course. Pour Memphis. Est-ce que ça reste un esprit rebelle pour vous, l'esprit Memphis?
Oui, parce que la liberté, elle disparaît pas. Elle reste toujours, on la sent tellement, on peut tellement l'apercevoir quand on regarde le mobilier, quand on les voit même en photo. Vous verrez dans le livre, il y a des photos d'eux, c'est juste incroyable, ils se fichent de tout. Ils sont comme des bulldozers, ils font exactement ce qu'ils veulent faire. Donc oui, cet esprit rebelle, on continue à le sentir. Oui.
C'est au musée des arts décoratifs et du design à Bordeaux jusqu'au 5 janvier. Donc c'est les derniers jours. Merci beaucoup d'être passé ce matin.
Merci à vous, Toufik.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Au 57 rue de Varenne à Paris, les premiers ministres se suivent et ne se ressemblent pas. On n'y est jamais que locataire. À l'heure où l'actualité politique dépasse parfois la fiction, pénétrez avec France Culture dans l'enfer de l'hôtel de Matignon.
Notre premier ministre, il fonctionne. Et il est entouré de gens brillants qui fonctionnent.
Un lieu de pouvoir où jeunes loups aux dents longues fraient avec grands serviteurs de l'État.
57 rue de Varennes, un feuilleton de François Perrache et Cédric Ossir, du lundi au vendredi à 20h30 et sur franceculture.fr.
Voir le monde, au plus près, LSD, la série documentaire. Perrine Kerfran.
Bûche meringuée ou pralinée, comme chaque année, on va se gaver de sucre. Mais comment est-ce qu'on obtient d'une simple betterave cette poudre blanche addictive et soutenue par les lobbies qui peut nous rendre malades? Et surtout, comment peut-on arriver à s'en passer? Cette semaine, LSD vous entraîne dans le délicieux enfer du sucre.
Le sucre, pour le meilleur et pour le pire, LSD, de lundi à jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
Les informations, Margot Delpierre.
Bonjour à tous. Avant la reprise des discussions le 7 janvier, les actions continuent pour protester contre la réforme des retraites. Deux raffineries sont à l'arrêt. De l'instabilité chez Boeing, le patron Dennis Muilenburg démissionne. Son successeur arrivera à mi-janvier. L'avionneur américain doit regagner la confiance des autorités et du public après deux accidents de 737 MAX. La loi controversée sur la citoyenneté en Inde pourrait avoir fait perdre une élection au parti au pouvoir. Manifestation violemment réprimée dure depuis deux semaines. Explication de notre correspondant sur place. On connaît désormais la date de reprise de la concertation sur la réforme des retraites. Les partenaires sociaux seront reçus le 7 janvier pour discuter des questions de pénibilité et de gestion de fin de carrière. Pour les recevoir, plusieurs membres du gouvernement, les ministres du Travail et de la Santé, Muriel Pénicaud et Agnès Buzyn, les secrétaires d'État chargés des retraites et de l'action et des comptes publics, Laurent Pietraszewski et Olivier Dussopt. En attendant, les grèves continuent, notamment dans les raffineries. Les salariés là-bas n'ont pas de régime spécial, mais bénéficient d'une retraite complémentaire AGIRC-ARCO. Elle devrait être absorbée dans le futur système universel à points. Les salariés réclament le retrait du projet de réforme. Deux raffineries ont décidé de se mettre à l'arrêt, celle de l'Avera dans les Bouches-du-Rhône et Grand-Puy en Seine-et-Marne. De son côté, le ministère des Transports se veut rassurant, Marie Viennot.
Sur cette question des pénuries d'essence, c'est communication contre communication. Côté gouvernement, le ministère des Transports affiche depuis le mouvement de grève dans les raffineries, c'est-à-dire depuis le 5 décembre, sa totale quiétude. Encore hier, alors que deux raffineries sur huit ont décidé de se mettre à l'arrêt, il écrit dans un communiqué « La logistique pétrolière est robuste, elle repose sur un réseau de 200 dépôts et actuellement, seulement 2 sur 200 connaissent des difficultés temporaires dans leurs expéditions. Il n'est donc pas nécessaire, dit le communiqué, de faire des pleins de précautions. En d'autres mots, c'est la crainte de la pénurie qui pourrait causer la pénurie. Du carburant dans les cuves, oui, il y en a. C'est même la conséquence de la grève, car depuis le 5 décembre, les livraisons vers les dépôts ont été limitées, voire interrompues. Mais ici ou là, la pénurie est déjà là et elle va s'accentuer, selon Thierry Defresne, délégué syndical central de Total Raffinerie, parce que ce carburant ne pourra pas passer des raffineries aux dépôts, puis des dépôts aux stations essence, faute de personnel non gréviste pour assurer son acheminement.
Des ruptures partielles, on en a. Là, actuellement, au moment où je vous parle, sur 2000 stations Total, on en a à peu près une quarantaine qui sont complètement à steak et on a 500 qui sont au moins en rupture sur au moins un produit. On ne sera pas en pénurie complète en France. On aura des produits à des endroits, mais le transfert vers les dépôts, le chargement des camions ou les sorties de raffinerie, ça va être extrêmement difficile. Donc voilà, ce produit va être entre guillemets piégé.
Ce qui va être crucial dans les jours qui viennent, c'est donc le pourcentage de grévistes dans les raffineries et les dépôts. En tout cas, c'est clair, il n'y a pas de trêve des confiseurs entre les raffineurs opposés à la retraite à points et le gouvernement.
Pas de trêve non plus à la SNCF et à la RATP où plusieurs syndicats continuent de faire grève. Deux TGV sur cinq circulent en moyenne aujourd'hui, un Transilien sur cinq et quatre TER sur dix. Les Transiliens s'arrêteront progressivement de circuler à partir de 18h jusqu'à demain après-midi au moins. À Paris, 6 lignes de métro sur 16 sont toujours complètement fermées. Le parquet national antiterroriste s'est saisi hier de l'enquête sur l'attaque aux bonbonnes de gaz. Elle visait des villas du sud de la Corse appartenant à Pierre Ferracci, un homme d'affaires président du Paris Football Club et réputé proche du chef de l'État Emmanuel Macron. Une attaque revendiquée par le Front de Libération Nationale Corse qui, il y a plus de 3 ans, annonçait pourtant un processus de démilitarisation. Il était fragilisé par le scandale des 737 MAX. Le patron de l'avionneur américain Boeing a annoncé sa démission hier. La réputation du groupe est largement ternie depuis les deux accidents impliquant des 737 MAX et qui ont fait 346 morts. Le premier fin octobre 2018, le second en mars dernier. L'entreprise affirme qu'un changement à la direction est indispensable pour restaurer la confiance perdue. Mais cela paraît pour le moins difficile à New York que la correspondance de Loïc Loury.
Il répétait depuis des mois ne pas vouloir fuir les difficultés. C'est pourtant sans surprise que Dennis Muilenburg quitte ses fonctions, lui le visage de la plus grave crise de l'histoire de Boeing. 346 morts en l'espace de quelques mois, deux catastrophes aériennes majeures, la Lion Air puis l'Ethiopian Airlines et à chaque fois un 737 MAX impliqué. Résultat, depuis mars dernier, l'appareil est cloué au sol, sans date de remise en service. La production de ce qui devait être l'avion star du constructeur, elle, s'arrêtera le mois prochain faute de débouchés. Mais au-delà de tout cela, Dennis Muilenburg paye aussi une gestion de crise désastreuse, le fait de blâmer les pilotes dans un premier temps, son silence malvenu ensuite face au drame des familles, sans compter les révélations explosives qui ont émaillé l'enquête, les dysfonctionnements du processus de certification de l'avion notamment, ou encore la proximité troublante de Boeing avec le régulateur américain. Le départ de Muilenburg remplacé par un directeur indépendant apparaît donc aujourd'hui comme une nécessité. Il y a fort à parier toutefois que la crise chez Boeing est loin d'être terminée.
La justice saoudienne a condamné hier 5 personnes à la peine de mort pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Et c'est, je cite, « un pas important pour faire payer tous ceux qui sont responsables », selon les États-Unis, par la voix d'un haut responsable américain. La Turquie et plusieurs organisations de défense des droits humains ont au contraire déploré la décision du tribunal de Riyad, qui par ailleurs exonère 2 des principaux suspects. Jamal Khashoggi collaborait avec le quotidien américain le Washington Post. Il a été tué en octobre l'an dernier dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Le BJP, parti au pouvoir en Inde, vient d'essuyer un revers électoral. Il a perdu hier l'élection dans l'état du Jharkhand. Depuis 2 semaines, des manifestants protestent contre une nouvelle loi sur la citoyenneté jugée discriminatoire envers les musulmans. Cette défaite galvanise les opposants au parti du Premier ministre Narendra Modi, Antoine Guinard.
Le parti du Congrès, son allié régional au Jharkhand, s'apprête à prendre le pouvoir dans cet état de l'Est de l'Inde qui était aux mains du BJP depuis 5 ans. C'est le 3e échec en moins de 2 mois pour la formation nationaliste hindoue du Premier ministre indien Narendra Modi après des performances électorales décevantes dans 2 autres états. Les élections au Jharkhand reposaient avant tout sur des problématiques locales, mais il n'empêche que cette défaite porte un coup au BJP, qui subit une contestation sans précédent depuis son arrivée au pouvoir en 2014. Depuis l'adoption par le Parlement d'une loi controversée sur la citoyenneté le 11 décembre, des manifestations incessantes ont éclaté à travers l'Inde pour demander son retrait. Cette loi octroie la nationalité indienne aux minorités religieuses non musulmanes du Bangladesh, du Pakistan et de l'Afghanistan voisin. Elle est toutefois perçue comme discriminatoire envers les musulmans par de nombreux Indiens qui sont descendus dans les rues ces 10 derniers jours. Face à cette vague de manifestations, le gouvernement Modi a opté pour la répression et ne fléchit pas. Lors d'un meeting politique organisé à New Delhi dimanche, le Premier ministre a à nouveau défendu cette loi sur la citoyenneté, dénonçant, je cite, les mensonges propagés par l'opposition et affirmant qu'aucun citoyen ne serait dépouillé de ses droits. De quoi convaincre ses sympathisants, mais pas une grande partie de la société civile indienne qui s'inquiète des dérives possibles d'une telle loi.
Antoine Guinard. Revenons en France en cette veille de Noël. Traditionnellement, une messe se tient en la cathédrale Notre-Dame de Paris à minuit. Mais pour la première fois depuis 1803, elle n'aura pas lieu dans le célèbre édifice ravagé par les flammes en avril dernier. À la place, les fidèles pourront suivre la messe en l'église Saint-Germain, l'Auxerrois, tout près de Notre-Dame. Le reportage de Nicolas Fillon.
À peine les portes de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois franchies et la messe de midi terminée, les mots sont lâchés.
C'est très difficile, on est naufragé, c'est un crève-cœur.
Pour ce fidèle de Notre-Dame, l'absence de messe de Noël en la cathédrale a du mal à passer.
Ça fait plusieurs années qu'on va prier à Notre-Dame, donc là on se sent un peu orphelin, il faut faire avec. Donc j'irai dans une paroisse à côté de chez moi.
Paroissienne à Saint-Germain-l'Auxerrois, Marie est également très marquée.
C'est toujours triste de voir que Notre-Dame est fermée, ça me fait beaucoup de peine. Mes frères ont
fait leur première communion à Notre-Dame. J'ai été baptisée à Notre-Dame.
Mais elle veut dédramatiser la portée symbolique de la messe de Noël dans son église à la place de Notre-Dame.
Ce sera une messe de Noël. Vous savez, une blessure, c'est long à cicatriser. L'incendie de Notre-Dame, c'était une blessure terrible pour tous. Mais on passe tout de suite à la reconstruction. C'est notre devoir de chrétien de toujours avancer.
Monseigneur Marsais va célébrer la messe de Noël à Saint-Germain-l'Auxerrois dans le même état d'esprit.
Pendant 3-4 ans, il va falloir qu'on s'habitue à plus célébrer la messe là, en tout cas seulement pas dans les conditions habituelles. Que ce soit à Saint-Germain-l'Auxerrois, à Notre-Dame de Paris ou à Saint-Sulpice, ça sera Noël. Hein.
Ce qui le préoccupe, c'est plutôt la remise sur pied de Notre-Dame.
On n'est pas encore dans la reconstruction, on est encore dans l'audit qui va nous permettre de pouvoir faire un vrai diagnostic des pierres, voir celles qui pourront être réutilisées ou pas. Si l'édifice très largement solidifié par les cintres posés sur les contreforts de l'église de Notre-Dame va tenir ou pas.
Un peu inquiet, Monseigneur Marsais veut tout de même positiver.
Ça fait 9 mois que Notre-Dame est par terre, mais si Notre-Dame église est par terre, Notre-Dame Marie n'est pas par terre. Elle est tout près du ciel et elle nous donne toujours son enfant et nous on a toujours dans l'espérance que tout ne se passe pas dans des bâtiments de pierre, mais tout se passe aussi dans les cœurs.
Reportage de Nicolas Fillon. La Savoie et la Haute-Savoie sont toujours en vigilance orange, avalanche, l'Ille-et-Vilaine et la Charente-Maritime pour des risques d'inondation. Le temps aujourd'hui sera pluvieux sur une majeure partie du pays. Sec et ensoleillé près de la Méditerranée. Comptez 11 degrés au maximum à Lille, 13 à Paris, 14 à Bordeaux, 16 à Nice et 20 degrés à Perpignan. 6h40 sur France Culture, l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec vous, Antoine Dulster, bonjour.
Bonjour Margot Delpierre.
Vous parlez aujourd'hui de la situation des droits humains en Chine.
Oui, c'est l'autre visage de la puissance chinoise qui s'est donné à voir tout au long de cette année, de la répression des manifestations à Hong Kong aux révélations sur les camps d'internement des minorités ouïghours du Xinjiang. De quoi questionner le modèle politique chinois et son rapport aux libertés. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Xi Jinping ne fait pas mystère de sa volonté d'exercer un contrôle étroit de l'appareil d'État et de la vie publique en général. Une tendance qui inquiète jusque dans les rangs officiels en Chine et bien au-delà. C'est la raison pour laquelle nous nous penchons aujourd'hui dans les enjeux internationaux sur cette question des libertés publiques en Chine dans le deuxième volet de cette semaine d'émission en forme de bilan de l'année 2019. Et nous recevons ce matin Marie Osman. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes sinologue, auteure et traductrice, présidente de l'association Solidarité Chine. Cette année 2019 a été marquée, je le disais en introduction, par des répressions de plusieurs types sur le territoire de la République populaire. La période est-elle, selon vous, critique, spéciale dans l'histoire de ce pays, Marie Osman?
Oui, on peut dire que c'est une période spéciale. Effectivement, depuis que Xi Jinping est arrivé au pouvoir en 2012, il a annoncé la couleur, mais il a quand même avancé progressivement. Maintenant, on est dans un état de répression comme on n'a pas connu depuis la période maoïste. Xi Jinping s'est arrogé tous les pouvoirs, concentre tous les pouvoirs et a fait inscrire dans la Constitution la pensée de Xi Jinping. Il a aussi changé les règles du jeu, c'est-à-dire qu'autrefois, au bout de 10 ans, on devait quitter le pouvoir et céder la place à son successeur et on devait nommer ce successeur 5 ans après l'accession au pouvoir. Donc pour Xi Jinping, ça aurait été 2017.
Alors, est-ce qu'il y a un problème dans la façon dont ce pays vit et gère son rapport aux grandes libertés? On a commémoré cette année les 30 ans du massacre de la place Tiananmen, un événement dont l'évocation est toujours taboue dans ce pays. Alors évidemment, sans comparer des événements incomparables, comment expliquer, Marie Osman, une forme d'impossibilité de nommer une répression politique d'hier à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des continuités?
Oui, il y a des continuités. L'histoire du Parti communiste chinois a été constamment réécrite. Récemment, on vient d'arrêter un éditeur dans la province du Guangxi et de le condamner à 10 ans de prison. Qu'a fait cet éditeur? Il a accepté de publier des livres d'historiens qui disaient la vérité sur l'histoire du Parti communiste chinois, notamment l'historien Gao Hua, qui maintenant est décédé, donc lui ne risque plus rien. Mais cet éditeur paye de 10 ans de prison le fait d'avoir voulu dire la vérité.
Alors c'est entre autres cette année, en 2019, hein, le Parlement européen qui a attiré l'attention sur le sort de la minorité ouïghour, dont on va parler ce matin, en attribuant le prix Sakharov à Ilham Tohti il y a 2 mois, c'était fin octobre. Alors rappelons qui est Ilham Tohti, c'est un universitaire qui est accusé, selon les termes employés par Pékin, de dissidence. C'est une figure de la société civile ouïghour. Qui est Ilham Tohti, Marie Osman?
Alors, Ilham Tohti a été accusé, c'est pire que de dissidence, de sécessionnisme, c'est de séparatisme. Et ça, pour les Chinois, c'est insupportable. Ilham Tohti était tout sauf un séparatiste. C'était quelqu'un qui était très préoccupé par la dégradation des relations entre les Ouïghours et les Han. Et il a fait appel au gouvernement chinois en disant « Essayons ensemble de résoudre les problèmes économiques, sociaux, culturels et les problèmes de vie, de vivre ensemble ». Pour cela, il a parcouru le monde, il est venu en France, il a été reçu officiellement par le gouvernement français d'ailleurs, et il est allé voir comment les autres pays du monde géraient leurs relations justement intercommunautaires. Il a fait énormément de propositions, et comme c'était quelqu'un de prudent, il a tout écrit en chinois, bien qu'il soit ouïghour de langue maternelle. Donc il a fait tout dans la transparence. Le gouvernement chinois a ceci d'intelligence qu'il repère les gens charismatiques. Ils avaient très peur de voir émerger, non pas un Dalai Lama, mais une figure tutélaire du peuple ouïghour. Et c'est pour ça qu'il a été le premier arrêté parmi les nombreux intellectuels. Actuellement, on compte au moins une centaine de très grands universitaires ouïghours qui sont condamnés, non seulement à la prison, mais certains d'entre eux sont condamnés à mort.
Alors, je crois que c'est sa fille qui a reçu à sa place le prix Sakharov. Et lui, on ne sait pas de où il est, même s'il est encore vivant.
Oui, c'était très émouvant. J'étais au Parlement à Strasbourg et Jewel, sa fille, a dit « Depuis 2017, nous n'avons aucune nouvelle de lui. Je ne sais même pas si mon père est encore vivant. »
Alors, le New York Times a quant à lui révélé l'existence de camps d'internement forcés cette année après s'être procuré 400 pages d'un rapport confidentiel du gouvernement de Pékin. Alors, Xi Jinping, dans ce document, appelle les autorités régionales à utiliser, je vais citer, « sans pitié, les outils de la dictature contre, je cite encore, le terrorisme, l'infiltration et le séparatisme dans cet état du nord-ouest de la Chine, le Xinjiang. » Selon plusieurs ONG, près d'un million de personnes appartenant à cette ethnie, les Ouïghours, seraient internés de force dans des camps. Alors, l'ONU alerte depuis longtemps déjà sur cette situation. Qu'est-ce qui se passe, Marie Haussmann, au Xinjiang avec les Ouïghours? Une minorité musulmane, donc, rappelons les choses.
Oui, et turcophone, donc de culture tout à fait différente de la culture majoritaire Han. Les chiffres qui sont donnés, c'est une large fourchette, puisque ce serait entre 900 000 et 1 800 000 Ouïghours incarcérés. Quand on pense que la population totale ouïghour, et ils sont pas tous au Xinjiang, ne fait que 10 millions, vous voyez la proportion de la population qui a été jetée dans des camps. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est comment se fait-il qu'un document de 400 pages est filtré. Or, dans ce document, on voit qui est à l'origine de cette répression, c'est Xi Jinping. Donc si vous faites le lien avec le fait que les Américains sont en train de publier des déclarations officielles pour dire « nous allons poursuivre ceux qui ont torturé, condamné, incarcéré les Ouïghours », on peut se dire que les dirigeants Ouïghours, notamment Chen Xuanguo, qui est maintenant leur grand responsable de la mise sous cloche du Xinjiang, s'est dit « attention, moi je ne veux pas être accusé, c'est Xi Jinping le coupable, moi je ne fais qu'exécuter les ordres ». Donc on a l'impression que les rats sont en train de quitter le navire.
Si on vous suit bien, Marie Haussmann, la divulgation de ces documents viendrait de l'appareil d'État en Chine et
forcément.
Donc certaines personnes ne voudraient pas porter la responsabilité de ce qui est
exactement
en train de se passer.
Donc les pénalités dont la Chine est menacée par les Américains, quelque part, ont porté leurs fruits.
Oui, puisqu'effectivement, le Congrès américain a fait voter une loi pour conditionner un certain nombre de conditions économiques l'état de la liberté dans ce pays. Que penser quand même, Marie Haussmann, évidemment, sans faire de raccourcis et de liens trop hasardeux, mais des explications de Pékin qui parlent de maintien de l'ordre après une vague d'attentats islamistes attribués à des extrémistes ouïghours. Que penser de ces explications? Est-ce qu'il n'y a pas eu des attentats aussi contre lesquels l'État chinois pouvait aussi, en tout état de cause, se protéger également?
Alors, certains intellectuels comme Wang Lixiong ont reconnu que le gouvernement chinois, depuis une trentaine d'années, je dirais, a tout fait pour transformer les Ouïghours en terroristes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, par exemple, des incidents qui se provoque au moment où on installe une porcherie à 5 mètres d'une mosquée. Donc à ce moment-là, les Ouïghours descendent dans la rue et disent « Non, vous pouvez pas installer cette porcherie-là ». Il y a des échauffourées, les hommes commencent à se battre entre eux, et après c'est annoncé comme un incident terroriste. Mais pratiquement à chaque fois, on voit que ce sont des incidents de vie communautaire. À partir du moment où les Ouïghours essayent d'être un peu Ouïghours, que ce soit célébrer le Ramadan, pour les femmes de porter le voile, ceci, cela, les Han interviennent et répriment. Donc forcément, il y a des mini-émeutes qui dégénèrent. Mais ce ne sont pas des actes terroristes tels que nous entendons le terrorisme.
Est-ce qu'on peut faire le lien avec la situation d'autres minorités dans la République populaire de Chine? Je pense évidemment au Tibet, mais c'est un dossier qui est beaucoup plus ancien. On parle de sinisation du Tibet, avec donc tout ce que ça implique en termes de coexistence pas forcément toujours pacifique entre des populations Han et des populations tibétaines dans cette grande province qui fait partie de la Chine. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui au Xinjiang dit quelque chose sur ce rapport un peu autoritaire que la République populaire entretient à son identité et ses minorités, Marie Lossmann?
Si vous appelez ça un peu autoritaire, je ne sais pas ce qui est très autoritaire. En tout cas, c'est Chen Xuanguo qui était au Tibet avant de passer au Xinjiang. Et c'est lui qui a commencé à installer des petites supérettes policières, si vous voulez. C'est-à-dire maintenant, au Xinjiang, tous les 500 mètres, il y a un mini commissariat de police. Autrement dit, si vous avez besoin d'un policier, vous voyez, vous n'avez jamais plus de 250 mètres à faire. Et inversement, si un policier doit intervenir. Donc, il avait commencé à mettre ça en place au Tibet et il a beaucoup développé ça au Xinjiang. Au Tibet, la réaction des Tibétains est différente. Ce ne sont pas des, entre guillemets, terroristes, mais ce sont des gens qui s'immolent par le feu. Cette année, nous avons encore à déplorer le, je crois, 156e immolé par le feu depuis l'année 2009. En 2009, il y a eu des répressions terribles au Tibet et la réaction des Tibétains, au lieu d'aller tirer sur des policiers ou des Han, ça a été de s'immoler par le feu. Donc on voit bien à quel point la répression chinoise sur les divergences culturelles est violente pour provoquer des réactions pareilles.
Alors abordons un autre dossier, Marie Lossmann, à des milliers de kilomètres de là. La répression à Hong Kong cette année aura vu l'un des plus grands mouvements de contestation de l'autorité chinoise depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997. C'est un projet de loi qui permettait des extraditions judiciaires vers la Chine qui a mobilisé la rue depuis le printemps. La chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, a retiré le texte controversé au mois de septembre, trop tard selon ses opposants, et pour la rue qui maintient sa mobilisation, qui prend une tournure sociale et politique. Là encore, j'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce qui se passe à Hong Kong? Est-ce que c'est simplement ce projet de loi qui a déclenché cette colère des manifestants ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond?
Bah, écoutez, tout ce que nous venons de dire inspire les Hongkongais.
La situation à Hong Kong au quotidien n'est peut-être pas la même que celle qui a cours au Xinjiang.
Évidemment, mais qu'est-ce qui se passe? En 1997, Pékin dit « on vous donne un pays de système ». Donc vous appartenez à la Chine, mais vous gardez votre système plus ou moins démocratique. Et en 97, ils disent « en 2017, vous pourrez élire votre Carrie Lam au suffrage universel ». Si en 2017, les Hongkongais avaient eu le droit de voter, ils n'auraient jamais élu Carrie Lam, c'est clair. Donc depuis 2017, la révolte est imminente, quoi. Elle est larvée. En 2019, elle explose à l'occasion de ce projet de loi. Pourquoi? Parce que s'opposer au Parti communiste chinois, de près ou de loin, ça induit quoi? Ça induit le traitement d'Ilham Tohti, qui a été condamné à la prison à vie. Les Hongkongais sont tout à fait conscients de ce qui se passe. Donc, ils disent, nous ne voulons pas être le futur Xinjiang ou le futur Tibet lorsque, petit à petit, Pékin aura grignoté toutes nos libertés et repris le contrôle total sur la région de Hong Kong.
Et précisons que la population a donné les pro-démocratie largement vainqueurs dans les élections locales qui ont eu lieu justement en cette année 2019. Ça aussi, ça dit quelque chose. Il y a quelque temps, ces élections n'avaient pas forcément un enjeu aussi important. Or, on a attribué cet enjeu justement à la victoire des pro-démocraties.
Ben, Hong Kong est en train d'envoyer un message au monde et je dirais que d'une certaine façon, ce qui se passe est un enjeu pour le monde. C'est-à-dire que nous sommes dans une société démocratique où nous avons une population hautement cultivée, une situation financière très enviable, une des plus grandes places financières du monde, et elle est menacée par la dictature chinoise. Elle est menacée de façon très directe. Il ne faut pas imaginer que la Chine est loin de chez nous maintenant. Elle est tout près. La surveillance, par exemple, sur les populations ouïghours en France est quasi totale. Les Ouïghours ici à Paris sont très rares à accepter de témoigner. Donc, la menace sur les libertés, elle est d'abord, évidemment, très sensible à Hong Kong, mais elle est déjà sensible chez nous aussi. Donc c'est très important de parler de ce qui se passe à Hong Kong et de défendre les Hongkongais.
Alors on parle avec vous, Marie Haussmann, ce matin de la situation des droits humains en Chine. On l'entendait tout à l'heure lorsque vous parliez de Xi Jinping. Il y a aujourd'hui peut-être un changement de nature dans ce régime chinois. Est-ce qu'on peut qualifier la façon dont Xi Jinping exerce ses responsabilités? Est-ce qu'on peut parler de culte de la personnalité? Il y a un certain nombre d'indices qui alertent les observateurs. La doctrine de Xi Jinping fait partie aujourd'hui de la constitution de ce pays. Elle a rejoint les contributions de Deng Xiaoping et Mao, ce qui est très rare. Donc, est-ce qu'on peut aller aussi loin que cela et parler de culte de la personnalité autour de Xi Jinping, de ce qu'il fait aujourd'hui dans son pays, Marie Haussmann?
Absolument, absolument. Regardez en Chine, partout où vous allez, il y a des portraits, des grands portraits du président Xi Jinping. Et puis, en ce moment, sa volonté s'impose partout. Le cadeau de la fin de l'année, c'est d'interdire à l'université de Fudan de garder le concept de liberté de pensée dans sa charte universitaire. Et c'est remplacé, justement, par l'étude et la lecture des textes de Xi Jinping. Les Chinois sont mortifiés. Les Chinois ont vu l'évolution de la Chine, ils l'ont accompagné, ils l'ont créé, ils l'ont suivi, et ils pensaient qu'ils iraient vers une ouverture de plus en plus grande. Or, en ce moment, on est dans une période de très très grande fermeture, et remplacer Xi Jinping par toutes les formes de pensée, c'est quelque chose de totalement aberrant pour eux.
Et ce sera ma dernière question, Marie Haussmann. D'où peut venir, peut-être, un îlot, un espace de résistance du monde universitaire dont vous parliez il y a un instant, d'où ça peut venir et comment faire ?
Résister maintenant, ça devient extrêmement difficile parce que le contrôle facial, le contrôle de la pensée, le contrôle des mouvements est partout. Et donc les êtres les plus modérés sont maintenant arrêtés et condamnés à mort. Rendez-vous compte de la perte d'espace à laquelle on est arrivé en Chine aujourd'hui.
Eh bien, merci beaucoup, Marie Haussmann. Je rappelle que vous êtes sinologue, présidente de l'association Solidarité Chine et spécialiste de ce pays.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente la revue Tintin, c'est l'aventure, en vente actuellement en librairie et chez les marchands de journaux. Dans ce nouveau numéro, découvrez un grand reportage sur la montagne chère à Hergé et sur la spiritualité. Un entretien avec l'explorateur Jean-Louis Etienne et un dépli BD inédit de l'auteur Jacques Ferrandez. Partez à l'aventure avec Tintin et Géo, un partenariat France Culture. Il cherche en écrivant une consolation qui rende le monde plus habitable. Avocat, romancier, essayiste, François Sureau a voix nue sur France Culture au fil de 5 entretiens.
L'alchimie qui conduit un avocat à être ou non efficace me reste encore mystérieuse. Je crois qu'en fait elle reste mystérieuse pour la plupart de mes confrères.
Engagé en faveur des libertés publiques et des demandeurs d'asile, son parcours, ses chocs littéraires, ses combats, ses engagements. François Sureau, à voix nue, de lundi à vendredi à 20h et sur franceculture.fr.
Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez. Dans quelques secondes, il va être 6h57 sur France Culture, l'heure de retrouver Hervé Gardette. Bonjour Hervé.
Bonjour Antoine Duster.
C'est votre billet d'humeur ce matin de l'art délicat de faire une liste de Noël.
Oui, chaque année, ma mère me pose la même question. Qu'est-ce que tu veux à Noël ? Rien, j'ai tout ce qu'il me faut. Allez, arrête de faire l'idiot, dis-moi. Je sais pas moi, un livre ? Oui, mais quel livre ? Peu importe, un livre. Bon, envoie-moi une liste. Et chaque année, je cède, je finis par renvoyer ma liste. La mettre au propre n'est pas si simple. Il faut qu'elle soit suffisamment longue pour ménager au minimum la surprise au moment d'ouvrir les paquets. Mais pas trop non plus pour ne pas être déçu. Oui, parce qu'avec ma chance habituelle, si je donne 20 titres de romans pour que le choix soit large, je sais qu'à tous les coups, il y aura celui dont je n'avais pas vraiment envie, que j'avais mis là juste pour en mettre 20 plutôt que 19. Alors, je pourrais les classer par ordre de préférence, mais je connais ma mère. Elle choisirait les trois premiers, puisque ce sont mes trois préférés. Donc, plus de surprises. Je prends soin d'ailleurs chaque année de bien préciser que ce n'est pas parce que j'ai inscrit en premier le volume 11 des œuvres complètes de Simenon chez Omnibus que je le désire davantage que le cœur de l'Angleterre de Jonathan Coe qui lui arrive en dernier. C'est un risque calculé d'ailleurs que de clôturer la liste avec le Jonathan Coe, que j'ai très envie de lire. Je fais le pari qu'il en devient un peu plus visible, un peu comme la lanterne rouge dans le Tour de France, dont on parle un peu, contrairement aux coureurs perdus dans la masse anonyme du peloton. Alors si ma mère m'écoute, je tiens quand même à préciser que ça ne signifie pas pour autant que les romans intermédiaires sont des choix par défaut. Le Moine de Mocha de Dave Eggers, Civilisation de Laurent Binet, les nouvelles complètes de Marcel Aimé dans la collection Quarto ont tout autant mes faveurs, même si j'adore Jonathan Coe. Ah, et puis dans la liste des livres que j'aimerais avoir en cadeau, il y aura cette ligne que j'inscris chaque année pour ménager la magie de Noël. Un livre surprise, auquel je ne m'attends pas. Entre nous, je croise les doigts pour que ce choix n'arrive pas, en souvenir d'une année où j'avais reçu un recueil de souvenirs de Patrick Poivre d'Arvor. Vivement que Noël soit derrière nous.